Et vous êtes audiolectrice, c'est ça, hein?
Voilà. Françoise Chambernagor, l'enfant des Lumières. Alors l'histoire débute, c'est une petite fille dans les Antilles, mais je ne sais plus exactement justement quelle île, et elle a été sauvée du massacre, c'est juste avant la Révolution française, je pense que c'est dans les années 1780 quelque chose. Et c'est sa nounou antillaise qui l'a sauvée en la mettant sous ses jupons, elle l'a sauvée du massacre comme ça, quand les esclaves se sont rebellés. D'accord. Dans la plantation de... je sais plus quoi d'ailleurs, de une plantation quoi, faite par les Français, oui. Faite par les Blancs. Et après, elle a été transportée en France, elle s'est mariée avec un noble, et ce monsieur qui était plus âgé qu'elle, il s'est retrouvé pendu, on ne sait pas trop comment, quoi. Bref, il a eu une mort violente, et elle avait un petit garçon de 7 ans, qu'elle a élevé seul dans, oui, Paris, et avec les moyens du bord de l'époque. Et ce petit garçon, il était très gentil au départ, puis après, elle avait une propriété en province. Donc, ils se sont transportés dans la propriété en province, et ce petit garçon, il est devenu à jouer, à travailler avec les paysans. Il était même à la limite un peu braconnier, etc. Quoi, c'était un vrai petit paysan, et très, très malin. Et elle l'a retrouvé quelquefois sur les places du village en train de faire des tours de passe-passe avec les cartes ou avec des jeux plus ou moins recommandables. Voilà. Alors, il n'était pas devenu une racaille, mais peu s'en fout quand même, quoi. Et justement, elle l'aime toujours d'un amour immodéré. Et elle fait travailler les paysans de sa propriété, de son château, là. Et le gamin, il est toujours plus ou moins livré à lui-même quand même. Voilà. Alors, il finit par faire un homme quand même, à peu près comme il faut. Il monte à Paris. Et là, bah, c'était le grand jeu, quoi. Pour ce jeune, c'était la grande vie, etc. Et elle s'est retirée dans son château. Elle a vécu quelques mois à Paris, le temps de le lancer, qu'il fasse des connaissances dans le grand monde, entre guillemets. Et qu'elle est retournée à son village. Et puis, en fait, son fils, elle le voyait que de loin.
Oui.
Elle s'est éteinte. Elle ne l'avait pas revue, et le courrier marchait très mal à ce moment-là, évidemment. Donc, elle n'a pas eu le temps de le revoir avant de mourir. Et lui, il revient dans le château, plein de remords et de culpabilité, quoi.
Voilà, d'accord. Donc, c'est un message sur les relations entre une mère et un fils.
Voilà, hein, un, oui, amour maternel, inconditionnel, quoi.
Vous le recommandez, alors, ce livre ?
Oui, peut-être plutôt à une certaine catégorie de lecteurs, plutôt lectrices, justement, de, oui, femmes, parce que pour un homme, ça peut paraître un peu, je dirais pas léger, mais un peu futile, peut-être, je sais pas.
Oui.
C'est plus compréhensible par des femmes, je pense.
D'accord, ben, il y a des audiolectrices qui seront très heureuses de suivre votre recommandation.
Oui, parce que c'est pas un livre moderne, hein, je pense pas.
Je m'appelle Michel Grenier. Je suis à la bibliothèque sonore au moins depuis 6 ou 7 ans. Et on m'a demandé à l'atelier d'écriture à la Maison des Jeunes d'écrire un conte. Et puis j'ai pensé d'un seul coup au veilleur dans Ulysse, dans Homère, l'Odyssée. Et j'ai pensé au veilleur qui était quelqu'un qui, la nuit, passait toute sa nuit à guetter la mer pour voir si Ulysse revenait. À partir de ça, c'était la nuit, et j'ai inventé une histoire qui est venue toute seule après. Une fois que je l'ai installée sur les remparts, l'histoire est venue toute seule, elle s'est déroulée toute seule. Les idées venaient les unes après les autres, sans problème. Voilà.
Oui, et donc c'était quelqu'un qui guettait et qui était tout seul sur les remparts?
Voilà, oui, Pénélope, la femme d'Ulysse, lui avait demandé de guetter, de veiller, parce qu'on l'appelait le veilleur, de veiller toutes les nuits le retour d'Ulysse.
D'accord, oui. Et ça se termine bien, votre conte ?
Mon conte ? Je ne sais pas.
Ah bon.
Les lecteurs le verront bien.
D'accord.
Les auditeurs le verront bien.
Oui. Merci, Michel. Avec la voix de Jean-Pierre, numéro 240 à la bibliothèque de Grenoble-Isère.
Conte à dormir debout. Il s'appelle Nyarkos. C'est un ancien combattant de l'armée d'Ulysse. Il fut blessé à l'épaule et au bras durant une bataille de la guerre de Troie. Ne pouvant plus lancer le javelot, il fut envoyé sur l'île d'Ithaque, car son bras invalide l'empêche maintenant d'exercer son métier. Alors Pénélope lui a demandé de guetter le retour de son époux parti depuis si longtemps. Il devint veilleur, passant toute la nuit sur les remparts, scrutant l'horizon au loin, sur la mer. Les heures sont longues, mais il peut s'appuyer sur une pierre en saillie qui lui sert de miséricorde. Si, au crépuscule, les murs des remparts sont encore chauds, longtemps avant l'aube, la fraîcheur est tombée, et une ample cape le protège du froid et de l'humidité. Seule sa tête émerge du vaste vêtement. Le film de la nuit ne change guère. Dans la première obscurité du soir, il entend l'extinction progressive des voix et des bruits de la cité. Quelques oiseaux nocturnes troublent parfois le silence. Avant les premières clartés, il guette l'arrivée de l'aurore aux doigts de rose, la fin prochaine de sa veille. Le déroulement identique des nuits ne le lasse jamais, et il sait qu'au long des heures nocturnes, il passera par toutes les phases, depuis l'inconscience jusqu'à l'éveil complet. Une nuit, alors qu'il somnole sans s'en rendre compte, il perçoit à côté de lui, sur sa droite, la présence d'un enfant aux cheveux sombres et bouclés. « Que viens-tu faire là ? Tu devrais être couché depuis longtemps. Tes parents vont te chercher quand ils s'apercevront de ton absence. »« Je ne peux pas dormir, » dit l'enfant à voix basse, « et écouter les bruits de la nature la nuit m'intéresse plus qu'apprendre à lire et à écrire. »« Mais alors, que vas-tu faire plus tard ? » demande le veilleur. « Je veux faire comme mon père, travailler le cuir, fabriquer toutes sortes d'objets et même des vêtements. » Maintenant, il faut que tu t'en ailles, sinon tes parents seront inquiets si au lever ils ne te voient pas. L'enfant ne répond plus. Il est parti. Mais il revient les nuits suivantes et à son tour questionne le veilleur. « Et toi, c'est quoi ton métier ?»« J'étais guerrier dans l'armée d'Ulysse, mais maintenant une blessure au bras m'empêche de lancer les traits. Alors je suis revenu sur l'île, et pour Pénélope, je guette le retour de son mari. Et toi, que fais-tu tout au long de la journée? J'aide mes parents en allant chez les commerçants. J'y rencontre mes amis et nous organisons des jeux. Nous allons sur la plage ou sur les rochers. On aime regarder le trafic des voiliers et des galères à rames. On se demande d'où ils viennent et où ils vont. Quand c'est la bonne saison, on se rend à l'intérieur de l'île cueillir tous les fruits qu'on trouve. On adore les figues et les baies sauvages. Quand on s'ennuie, on regarde passer les filles qui font semblant de ne pas nous voir. Au bout de quelque temps, quand l'enfant disparaît après leur conversation, lorsqu'il s'évanouit dans la nuit, Narcos ressent comme une gêne, ensuite un trouble qu'il ne comprend pas. Qui est cet enfant? Pourquoi il lui rappelle quelqu'un? Mais c'est trop diffus. La nuit suivante, l'enfant revient et leur conversation reprend. Alors que Narcos sort son bras de la cape pour l'atteindre, sa main ne ressent que le froid de la nuit. Il est troublé, puis stupéfait. Il n'y a personne. Il n'y a pas de petit garçon. Il n'y a jamais eu de petit garçon. L'enfance finit-elle un jour? Michel Grenier, janvier 2022.
La Befana, conte de Noël italien. À l'instar de nombreux pays, la distribution des cadeaux de Noël en Italie se fait le 25 décembre. Mais il n'en fut pas toujours ainsi. Jadis, ces mêmes présents étaient offerts le 6 janvier, jour de l'Épiphanie, par la Befana, une sorcière bienveillante. Mais n'en révélons pas plus et découvrons ensemble ce merveilleux conte de Noël italien. Il était une fois, il y a bien longtemps, une paysanne nommée Befana qui habitait un hameau. Veuve et sans enfant, la vieille femme était aigrie et solitaire. Elle vivait dans une humble demeure. Toutefois, elle l'entretenait avec un si grand zèle qu'on la voyait toujours un balai à la main, prête à traquer la moindre poussière. Befana passait ainsi le plus clair de son temps, à balayer, balayer et encore balayer. Un soir d'hiver, alors qu'elle terminait son ménage quotidien, on frappa à la porte. L'ayant ouvert, elle se retrouva surprise face à trois inconnus. Le premier était un vieil homme blanc portant la barbe et les cheveux longs. Le second était jeune, imberbe et à la peau rouge, et le troisième était noir et barbu. Tous étaient vêtus de riches manteaux et coiffés d'une couronne scintillante. Ils se présentèrent comme étant les rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar. Après avoir expliqué à Befana qu'ils se rendaient guidés par une étoile à Bethléem pour honorer la naissance de l'enfant Jésus, ils lui demandèrent l'hospitalité pour la nuit. Mais celle-ci refusa sèchement, prétextant qu'elle ne pouvait accueillir des invités dans une demeure aussi sale. Befana ferma alors la porte au nez des pauvres rois mages et s'en alla conclure sa tâche ménagère. Mais, tandis qu'elle balayait, elle ne put s'empêcher de penser à ses curieux visiteurs. Au fur et à mesure que les heures s'écoulaient, la vieille femme fut de plus en plus rongée par le remords. Avant de s'endormir, elle observa le ciel nocturne et aperçut soudain l'étoile décrite par les rois mages. Celle-ci brillait de mille feux. Befana prit alors une décision qui allait bouleverser son existence. Le lendemain matin, elle se réveilla aux premières lueurs de l'aube. Elle remplit un énorme baluchon de tous les gâteaux, bonbons et fruits secs que contenait son foyer pour les offrir à l'enfant Jésus. Coiffée d'un fichu noué sous le menton, vêtue d'une robe blanche et portant son sac de friandises attaché à son inséparable balai, elle quitta son village dans le froid matinal pour retrouver les rois mages et marcher avec eux vers Bethléem. Les jours et les semaines passèrent, mais la pauvre Befana ne retrouva jamais les trois voyageurs, et comme l'étoile avait disparu, elle ne put également rendre visite à l'enfant Jésus. Pourtant, la vieille femme ne perdit jamais espoir. Et à mesure qu'elle avançait, son cœur se remplissant d'amour, elle distribuait ses friandises à chaque enfant qu'elle rencontrait sur son chemin. Depuis lors, volant sur son balai, elle rend visite aux enfants, chaque nuit, du 5 au 6 janvier. À ceux qui ont été sages, elle leur laisse un cadeau, et à ceux qui ne l'ont pas été, un morceau de charbon. Henri. Voici un livre lu récemment que j'ai beaucoup apprécié. Je vous le recommande chaudement. Une saison douce de Milena Agus, édition Liana Lévy, 2021. Un mot sur l'auteur. Milena Agus, italienne, vit à Cagliari, en Sardaigne, où elle est née. Son livre Mal de pierre, en 2007, lui confère une notoriété mondiale. Toujours proche des fables ou des contes, Milena met en scène des êtres différents qu'elle s'emploie à remettre sur la voie d'une espèce de bonheur. Le livre. Une saison douce est une histoire de migrants qui débarquent un jour en Sardaigne, dans le village délabré de Campidano. D'un côté, les Sardes se sentent surpris, indignés, puis pris au piège par ces humanitaires qui accompagnent ces envahisseurs. Mais que vont-ils faire avec ces inconnus? De l'autre côté, les migrants ont du mal à masquer leur déception d'arriver dans ce trou perdu si peu accueillant. La malédiction continue pour eux. Camp contre camp, la violence ne demande qu'à exploser. Mais l'écrivaine sarde met alors en place une autre voie. C'est d'un lieu, d'une terre, qu'émerge cette autre voie. Les migrants remettent en état la ruine, vieille maison où l'on voit les étoiles à travers le toit, puis le potager du village. Le rapprochement entre les deux communautés est en marche. Les femmes comptent beaucoup dans ces liens qui se tissent. Découverte de la cuisine de l'autre, des jeux, des croyances, naissance d'un bébé, et grand bal final très drôle tous ensemble. Vraiment une belle fable à découvrir.